Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons donc une nouvelle série. C'est l'évangile de Saint Jean. Par l'évangile de Saint Jean, nous apprenons que nous avons deux défenseurs et que la résurrection est vraiment une réalité. Bien des théologiens, aujourd'hui, ne le croient pas vraiment. C'est dommage. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 4, et le verset 14. Cette déclaration avait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde de la philosophie antique. Tout comme les philosophes grecs, et contrairement à bon nombre de nos contemporains, Saint Jean affirme qu'il y a un but à notre vie. Nous avons en effet été faits pour quelque chose, dans une intention que nous devons reconnaître et honorer si nous voulons vivre bien et dans la liberté. Le monde n'est pas le simple produit de forces aveugles et aléatoires. Son histoire ne correspond pas à une fable racontée par un idiot, à une frénétique cacophonie dépourvue de signification. Voyez-vous, la Sainte Bible va beaucoup plus loin encore, en soulignant que le sens de la vie ne réside pas dans un principe, ni dans une quelconque structure rationnelle abstraite, mais dans une personne. Oui, un être humain qui a marché sur la terre. Or, une telle déclaration relevait du pur délire aux yeux des philosophes. Néanmoins, elle a déclenché une révolution. Si le christianisme disait vrai, une vie bien menée ne consistait pas essentiellement dans la contemplation philosophique et les quêtes intellectuelles, définition qui excluait la plupart des gens, mais dans une personne. Et cette personne pouvait être rencontrée dans le cadre d'une relation accessible à tous, excusez-moi, pourtant, on peut dire partout et indépendamment de leur arrière-plan. Oui, en effet, voyez-vous, pour la Sainte Bible, le sens de la vie ne réside pas dans un principe ni dans une structure rationnelle abstraite, mais dans une personne. Pour nous montrer immédiatement comment cela fonctionne concrètement, l'apôtre Jean décrit Jésus en train d'interagir avec un groupe d'étudiants. À cette époque-là, il n'y avait pas d'université. Si l'on voulait étudier, eh bien, on s'attachait à un professeur. Il y avait beaucoup de maîtres spirituels et beaucoup les suivaient et devenaient leurs élèves ou disciples. le professeur le plus audacieux et le plus avant-gardiste du moment était Jean le Baptiste. Il était très populaire et il avait beaucoup d'adeptes dévoués. L'histoire a retenu le nom de certains d'entre eux, tels que André, qui avait pour frère un dénommé Pierre, et Philippe, qui avait pour ami Nathanaël. Plusieurs croyaient déjà ce que leur maître enseignait à propos de la venue du Messie, celui qu'il appelait l'agneau de Dieu, selon saint Jean, chapitre 1, verset 29. Néanmoins, il y avait aussi des sceptiques, et Nathanaël en faisait partie jusqu'à sa rencontre avec Jésus-Christ. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit, qu'il a vraiment décrit. » On peut dire, cela est vrai, il l'a décrit, et cela, croyez-moi, selon la loi et selon les prophètes, car ces prophètes ont parlé. Ils ont dit que Jésus de Nazareth était le fils de Joseph. Nathanaël lui dit, voyons, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippe lui répondit, « Eh bien, viens et vois. » Et Jésus a vu en Nathanaël, il a vu quelque chose quand il s'est approché de lui et il lui a dit, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Voyons, d'où « Me connais-tu ?» lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Saint Jean, chapitre 1, verset 43. À 51. Chers amis, j'aimerais tout d'abord vous faire remarquer le problème de notre ami Nathanaël. Au mieux, on peut lui reprocher son snobisme intellectuel. Au pire, on peut lui reprocher son sectarisme. Voyez-vous, quand Philippe vient lui dire « Je voudrais que tu rencontres ce nouveau rabbin », il a des réponses aux grandes questions de notre temps, et il vient de Nazareth. Et notre ami Nathanaël réplique avec dédain « Comment ? De Nazareth ? Oh là là ! Tous les habitants de Jérusalem regardez de haut les Galiléens. Ce genre d'attitude est caractéristique de la race humaine. Les membres d'une communauté en ont toujours méprisé d'autres, les trouvant indignes d'eux. Et comment ceux qui sont méprisés réagissent-ils? Eh bien, ils recherchent d'autres personnes pour qu'ils puissent, on peut dire, à leur tour, mépriser, pourquoi pas. Et ainsi de suite, bien sûr. Même si Nathanaël ne venait en réalité pas de Jérusalem, mais de la Galilée, il se sentait en droit de mépriser une localité telle que Nazareth, qui était située dans une région jugée plus arriérée et plus primitive. Oh, il y a toujours eu des gens bien, les gens convenables, les gens intelligents, et on le dit à voix basse, et malheureusement il y a les autres. Et pour bien signaler aux gens bien, convenables et intelligents qu'on fait partie des leurs, alors on lève les yeux au ciel lorsque des personnes et des lieux peu fréquentables sont mentionnés. Nous souhaitons que les autres nous pensent capables et intelligents, et souvent nous cherchons à établir cette identité non pas en invoquant un argument fondé sur le respect et sur l'honnêteté, mais en ayant recours au ridicule souvent et au dédain. Les autres ne sont pas seulement dans l'erreur, on les juge à côté de la plaque, on les juge étant rétrogrades, atteints de nanisme intellectuel. Nathanaël ne parvenait pas à croire qu'une personne originaire d'un endroit comme Nazareth pouvait détenir les réponses aux grandes questions de son temps. Tu me dis qu'il a les réponses et qu'il vient de Nazareth. Eh bien, je ne crois pas. Non, non, non. Ça, c'est impossible. Et il lève les yeux au ciel. Comment? Tu dis qu'il vient de là-bas? Vraiment, vraiment? Eh bien, on aura tout vu. Voyez-vous, si c'est le genre de point de vue que vous avez sur la foi chrétienne, vous ou quelques-uns que vous connaissez, ce n'est pas une surprise, car nombre de nos contemporains affichent aujourd'hui, face au christianisme, la même réaction que Nathanaël. Si le christianisme venait de Nazareth à l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, on aime lever les yeux au ciel en évoquant l'idée que l'on a où ses prétentions concernant Christ, son identité, ce qu'il a fait et ce qu'il peut peut-être faire pour les hommes. Alors les gens qui savent, c'est-à-dire les gens convenables, disent tous, voyez-vous, le christianisme, je connais, j'ai grandi avec. Je me suis bien vite rendu compte que ce n'était pas pour moi et j'ai pris ma décision. Voyez-vous, la morale, c'est que Jésus, il vient toujours, malheureusement, de Nazareth. Alors, si telle est votre attitude, j'ai deux remarques à faire parce que je crois que vous êtes confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est que ce genre de mépris a toujours des conséquences fatales. Il annihile, il rend nul toute créativité et toute possibilité de résoudre les difficultés, sans mentionner tout espoir de relation. alors les yeux levés au ciel, constitue l'un des signaux avertisseurs, indiquant qu'une relation est en grave danger. Les conseillers conjugaux guettent cette attitude-là en raison du mépris envers l'autre dont elle témoigne. La déception, les désaccords, la souffrance ou la frustration n'empêchent pas un mariage de réussir. En revanche, il ne peut pas survivre au rejet complet du conjoint. Le mépris tue littéralement la relation. Prenons un exemple plus terre à terre. Supposez que vous ayez égaré vos clés. Après les avoir cherchées en vain, et cela dans tous les endroits où elles pourraient peut-être se trouver, vous devrez commencer à les chercher dans ceux où elles ne peuvent pas se trouver. Et bien sûr, c'est là qu'elles sont et que vous les trouverez. Il n'y a rien de plus fatal pour la sagesse et les bonnes relations que l'attitude consistant à rejeter d'emblée des idées ou des personnes. Non, chers amis, il n'y a rien de plus fatal pour la sagesse et les bonnes relations que l'attitude consistant à tout simplement rejeter d'emblée des idées ou des personnes. Le deuxième problème qui se pose à vous est plus important. En méprisant le christianisme, vous sciez probablement la branche maîtresse d'un bon nombre de vos valeurs fondamentales. Comme déjà signalé, il est à l'origine d'un des fondements d'une société paisible. L'idée que nous devons aimer nos ennemis et non pas les tuer. Il y a une autre notion sur laquelle s'est construite la conscience contemporaine. Chaque être humain est une créature faite à l'image de Dieu et a par conséquent une dignité et des droits, peu importe ses talents, sa richesse, son ethnie ou son sexe. Actuellement, il y en a des extrémistes qui se croient à l'ombre de l'extrémisme, qui lancent des bombes spéciales anti-bunker et qui tue les innocents qui n'y peuvent rien, parmi eux des quantités d'enfants, et même ils détruisent des hôpitaux où des gens en grave danger de mort devraient être soignés. Alors, ils appellent ça faire leur devoir, bizarre de devoir. Sans cette valorisation typiquement chrétienne de la personne humaine, de l'individu comme tel, jamais la philosophie des droits de l'homme, à laquelle nous sommes si attachés aujourd'hui, n'aurait vu le jour. Voici un autre point de vue qui est considéré comme un fait acquis aujourd'hui et qui vient de la Sainte Bible. C'est la nécessité de s'occuper des pauvres. Et il y en a, oh là là, des milliers par jour de plus que hier. Ça devient terrible. Or, c'est curieux quand même. Tous les milliards de milliards se trouvent dans les mains d'une dizaine de multimilliardaires et tous les autres devraient donc, en quelque sorte, selon eux, parce que ils les trouvent minables et ils viennent évidemment de la Galilée, ils devraient donc mourir. Ils le méritent. Dans l'Europe pré-chrétienne, et cela à une époque où les moines propageaient le christianisme, eh bien toutes les élites estimaient absurde d'aimer des ennemis et de prendre soin des pauvres. Elles affirmaient que la société se décomposerait parce que ce n'est pas la manière dont le monde fonctionne. Ce sont les plus talentueux et les plus forts, comme Donald Trump, qui l'emportent. Et le vainqueur rafle tout. Le fort mange le faible. Les pauvres sont nés, évidemment, pour souffrir. N'est-ce pas ainsi que le monde a toujours fonctionné? Cependant, les enseignements du christianisme ont révolutionné l'Europe païenne en insistant sur la dignité de la personne, la primauté de l'amour, y compris à l'égard des ennemis, et la sollicitude envers les pauvres et les orphelins. Je n'ai pas dit que Dieu m'aurait inspiré ce matin que je devrais donner ma petite pension pour les pauvres et que moi, je devrais voir comment je peux survivre. Le Seigneur m'a pas dit ça. J'espère que vous comprenez l'allusion. Je l'espère. Peut-être vous dites-vous, d'accord, le fait que ces idées sont venues de la Sainte Bible et de l'Église est un argument historique intéressant, d'accord? Mais je peux y adhérer sans adhérer au christianisme. Ça, c'est peut-être vrai d'une certaine façon. Mais je suggère que c'est une réponse qui manque tout de même de perspective. Voyons cela. Le livre de la Genèse nous montre à quoi pouvaient ressembler les civilisations avant la révélation biblique. Un élément qui saute aux yeux est le caractère très répandu du principe de primogéniture. Le fils aîné héritait en ce temps-là de toute la richesse, ce qui permettait à la famille de conserver son statut et sa place dans la société. Ainsi, le deuxième ou le troisième fils ne recevait rien ou seulement très peu. Or, chaque fois que Dieu désigne quelqu'un pour son œuvre, croyez-le ou pas, il choisit non pas Donald Trump, je plaisante. Il choisit le plus jeune, le plus faible, celui qui a l'air un peu bobet. Mais il est peut-être pas du tout bobet. Abel plutôt que Caïn, Isaac plutôt qu'Ismaël, Jacob, pas du tout un taré, plutôt qu'Ésaü, David, encore moins taré, plutôt qu'un de ses 11 frères aînés, donc encore et toujours, celui qu'il choisit n'est pas le premier-né, il n'est pas non plus celui que la société attend et privilégie. Jamais celui qui vient de Jérusalem pourrait-on dire, mais toujours celui qui vient de Nazareth. Voyez-vous, d'après une autre tradition culturelle antique évoquée dans la Genèse, les femmes ayant donné naissance à beaucoup d'enfants étaient perçues à l'égal d'héroïnes. Bien sûr, aujourd'hui, cette gentille Pologne a essayé d'interdire qu'on tue les bébés dans le ventre des mamans. Eh bien, toutes ces femmes ont fait un tel tapage que le gouvernement a dû renoncer à être sévère. Et donc, cette majorité de femmes ultra-modernes, sophistiquées et surtout anti-tout, a décidé qu'on pouvait avorter n'importe quand. On pouvait donc même tuer quand le bébé vient de naître. Pourquoi pas? Il y en a qui le font. Une grande descendance était en ce temps-là autrefois synonyme de succès économique, de garantie militaire et bien sûr de probabilité importante que le nom de la famille se perpétue. Il n'y avait donc pas besoin qu'on dise, voyons, moi je voudrais que environ 100 000 réfugiés viennent dans notre pays parce que les nôtres ont décidé d'être trop intelligents, surtout les femmes, et donc de faire carrière. Et on ne va pas faire des enfants, on ne va pas s'abaisser à quelque chose de si primitif. Et bien maintenant, certains pays doivent accepter, malgré que ça ne plaît pas à tout le monde du tout, des centaines de milliers de gens qui ont d'autres cultures, qui pensent tout autrement et dont les religions sont loin d'être à l'approche de la Sainte Bible. J'en dirai pas plus, parce qu'autrement on dira que je fais du prosélytisme. Oui. Donc, à l'inverse, la honte et la stigmatisation attendaient les épouses qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Or, chaque fois que Dieu fait d'une femme son instrument, il en choisit une qui est stérile, et oui, voyez-vous ça, et lui permet de devenir enceinte. Elle a beau être méprisée par tous les autres, Dieu l'a choisie. Plutôt elle que celles qui sont aimées, qui sont entre guillemets bénies aux yeux du monde. Et c'est le cas avec Sarah, la femme d'Abraham, Rebecca, la femme d'Isaac, Anne, la mère de Samuel, Élisabeth, la mère de Jean. Il accomplit donc Dieu toujours son œuvre à travers les hommes ou les garçons dont personne ne veut, ainsi que les femmes ou les filles dont également personne ne veut. Peut-être vous dites-vous que cette partie du christianisme est vraiment chouette et inspirante. C'est bien que Dieu aime les mal-aimés. Peut-être vous dites-vous, voyons, je peux faire, peut-être que je peux même être d'accord avec cette partie de la Sainte Bible, pourquoi pas? En revanche, tous les éléments concernant la colère de Dieu, le sang de Christ et la résurrection du corps, alors tout ça, je ne l'accepte pas. Il faudrait quand même pas me prendre pour plus bête que je suis. Or, ces composantes de la Sainte Bible, stimulantes et surnaturelles, sont absolument essentielles et non pas seulement accessoires. Le cœur du message unique de la Sainte Bible, c'est que le Dieu transcendant et immortel est venu lui-même sur la terre et est devenu faible, exposé à la souffrance et à la mort. Il a fait tout ça pour nous, pour expier nos péchés, pour recevoir à notre place la punition que nous méritions. Si c'est vrai, il s'agit de l'acte de générosité, de sacrifice de soi et d'amour le plus stupéfiant et le plus radical que l'on puisse imaginer. Il ne saurait y avoir de fondement plus fort, ni de motivation plus dynamique pour les concepts éthiques révolutionnaires chrétiens qui nous attirent. Voyez-vous, ce qui a rendu l'éthique chrétienne totalement unique, ce n'est pas le fait que Jésus et les premiers chrétiens étaient des gens vraiment bien, qui faisaient le bien pour que le monde soit un endroit qu'on peut dire où il fasse bon de vivre. De telles idées n'ont paru pleines de sens que lorsque on a réussi à comprendre le message chrétien au sujet de la nature de la réalité suprême. Et ce message, il est résumé dans ce que la Sainte Bible appelle l'Évangile. Voici ce qui rend le christianisme vraiment différent de toutes les autres religions et de toutes les formes de pensée. Or, toutes les religions vous disent que si vous voulez trouver Dieu, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez élever votre conscience, si vous voulez communiquer avec le divin, quel qu'il soit, vous devez faire quelque chose. Vous devez vraiment faire certaines choses. Vous devez donc rassembler vos forces, vous devez observer des règles strictes, vous devez libérer votre esprit pour ensuite remplir votre esprit, et vous ne devez pas vous contenter d'être dans la moyenne. Toute autre religion ou philosophie humaine dit que si vous voulez rendre le monde meilleur ou voulez-vous même être meilleur vous-même, vous devez rassembler vos facultés et vos forces et vivre d'une manière bien définie. Or, le christianisme dit exactement le contraire. Alors que toutes les religions et philosophies disent qu'il faut accomplir quelque chose pour pouvoir entrer en relation avec Dieu, le christianisme dit non. Jésus-Christ est venu faire pour vous, pour nous, ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Toute autre religion dit, voici les réponses aux grandes questions. Le christianisme lui dit, Jésus, c'est lui la réponse à toutes ces questions. De nombreux systèmes de pensée attirent les gens forts, ceux qui réussissent parce qu'ils exploitent directement une de leurs convictions. Car si l'on est fort et on n'a pas peur des efforts, ça, c'est la réussite absolument assurée. Or, le christianisme ne s'adresse pas uniquement aux plus forts, il s'adresse à tous. À tous, vous savez ce que ça veut dire, et notamment à ceux qui reconnaissent que dans les domaines qui comptent vraiment, ils sont faibles. Il s'adresse donc à ceux qui ont la force toute particulière de honnêtement admettre que leurs faiblesses ne sont pas superficielles et que leur cœur est caractérisé par un profond désordre et qu'ils sont hélas incapables de se corriger eux-mêmes. Il s'adresse donc à ceux qui sont capables de voir qu'ils ont besoin d'un sauveur, qu'il fallait que Jésus-Christ meure sur la croix pour qu'ils puissent être en règle avec Dieu. Donc, encore une fois, le christianisme ne s'adresse pas uniquement aux forts, aux milliardaires, mais il s'adresse à tous. Réfléchissez à ce que je viens de dire. C'est au mieux illogique, au pire rebutant, car le vrai génie du christianisme, c'est qu'il ne dit pas, il ne dit absolument pas, voici ce que vous devez faire pour trouver Dieu. Ce qui fait le christianisme, c'est la venue de Dieu sur la terre, incarné, vous l'avez compris, incarné en Jésus-Christ, qui lui est mort sur la croix, pour vous trouver. Voilà donc quelle est la vérité radicale et unique qu'il a apportée au monde. Toutes ces autres idées révolutionnaires, le souci des faibles et des personnes dans le besoin, l'importance de vivre pour l'amour et le service plutôt que le pouvoir et le succès, l'amour disposé à aller, s'il le faut, jusqu'au sacrifice, même pour des ennemis, et tout cela découle de qui ? De l'enseignement de l'Évangile, c'est-à-dire du message qui affirme qu'en raison de la profondeur de notre péché, Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ pour faire ce qu'il nous était absolument impossible de faire nous-mêmes, c'est-à-dire de nous sauver. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous le demande, si vous admettez que le christianisme est la source de nombre de vos convictions, pourquoi adopter une partie seulement de son enseignement et de rejeter celle-là qui l'explique, c'est-à-dire honnêtement, et qui fonde en quelque sorte sa cohérence totale? Ne soyez donc pas comme Nathanaël. Ne laissez pas l'idée selon laquelle le christianisme serait dépassé ou peut-être insatisfaisant d'un point de vue intellectuel, que cela ne vous rende pas aveugle, je le souhaite. Il ne faut pas que ça vous rende aveugle à ce que le christianisme peut vous offrir. Donc méfiez-vous de votre orgueil et de vos préjugés et essayez de prêter attention au risque d'une attitude de mépris et de rejet. Cela peut empoisonner, croyez-moi, tous les domaines de votre vie, mais le danger est particulièrement grand lorsqu'il s'agit des questions essentielles de l'existence. Alors pourquoi adopter une partie seulement, je le répète, une partie seulement de l'enseignement chrétien est rejetée, celle-là même qui l'explique et qui fonde sa cohérence absolument. Oui, pourquoi ? Voyez-vous, le premier aspect important de l'histoire de Nathanaël est donc le problème de l'orgueil. Vous l'avez compris, c'est l'orgueil, le contraire de l'humilité et du mépris. Hein ? Du mépris. Mais il y a un deuxième élément intéressant, en dépit de ses railleries, car tout au fond de lui, il ressent un besoin spirituel profond. Quelques instants seulement après avoir lâché, rappelez-vous quand il a dit « Peut-il vraiment sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il s'exclame maintenant, tout à coup, « Maître, oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voyez-vous, dès le moment où Jésus commence à lui donner des preuves absolues, des preuves crédibles de son identité, il change totalement d'allégeance. Et très rapidement même, probablement un peu trop rapidement. C'est ce que nous verrons un peu plus tard, hélas. Jésus lui reprochera gentiment du reste de ne pas avoir pris le temps de bien réfléchir. Cela vous surprend-il ? Eh bien, moi, pas du tout. Je faisais partie aussi, un temps, de ceux qui étaient beaucoup trop prompts et beaucoup trop rapides dans les décisions sans approfondir les choses. En dépit de toute l'arrogance affichée, Nathanaël est allé à la rencontre de Jésus avec Philippe. Pourquoi ? Comme de nombreux jeunes juifs, surtout de sa génération, il avait du mal à accepter la domination romaine et se demandait ce que Dieu faisait. La crise d'identité juive était absolument collective. Fallait-il chercher un Messie ? De quoi serait fait l'avenir ? Était-il toujours le peuple de Dieu, comme au temps de David ? Dieu les avait-il rejetés ? De toute évidence, les réponses que d'autres apportaient à ces questions ne le satisfaisaient pas du tout. Il ne devait pas être très content de sa propre perception de la situation, ni peut-être de sa vie spirituelle. Il a donc pensé, peut-être devrais-je me tourner vers Nazareth, va savoir. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Les étudiants d'aujourd'hui sont aux prises avec les grandes questions de la vie, cela sous différentes formes, et ils sont eux aussi très souvent insatisfaits des réponses proposées dans les écoles et les livres les plus respectés. Ainsi, à la manière de Nathanaël, ils peuvent commencer à se tourner tranquillement vers Jésus. Un exemple classique d'un tel changement, c'est celui du célèbre poète H. Auden, ou Auden, qui est arrivé à Manhattan en 1939 alors qu'il était déjà un écrivain très connu. Il avait abandonné la foi de son enfance, il avait développé au sein de l'Église anglicane, quand il était jeune, une certaine foi, comme la plupart de ses amis intellectuels britanniques. Toutefois, après que la Seconde Guerre mondiale a éclaté, alors là, il a changé d'avis et il a adhéré à la foi chrétienne. Beaucoup ont été scandalisés par ce retour dans le giron de l'Église. Que s'est-il passé? Eh bien, en relatant son renouveau spirituel, il souligne la nouveauté et le choc qu'ont constitué l'attitude des nazis dans les années 1940-41, etc. Ils n'ont jamais prétendu vouloir la justice et la liberté pour tous. Attaquant, ils ont attaqué le christianisme au motif que aimer votre prochain comme vous-même était un commandement valable seulement pour les mauviettes efféminées. En outre, le rejet pur et simple de tout ce que le libéralisme représentait suscitait vraiment un vif enthousiasme. Et cela non dans un pays de barbares, mais voyez-vous, dans une de ces nations qui étaient connues étant les plus cultivées d'Europe. À la lumière de tout cela, il ne pensait pas pouvoir continuer à présumer que les valeurs du libéralisme, c'est-à-dire pour lui la liberté, la raison, la démocratie et la dignité humaine, allaient absolument de soi. Si je suis convaincu que les nazis, des gens très instruits, ont absolument tort, et que les Anglais, des gens aussi instruits, avaient raison, qu'est-ce qui valide ces valeurs et qu'est-ce qu'il peut les valider ou les invalider? Voyez-vous, les intellectuels anglais qui s'adressent maintenant au ciel pour qu'il enraye le mal incarné en la personne d'un nommé Hitler, n'ont pas de ciel auquel s'adresser. Donc la tendance globale de la pensée libérale a consisté, en ce temps-là, à ébranler la foi dans l'absolu. On a donc tenté de faire de la raison le seul juge. Mais comme la vie est un processus en perpétuelle évolution, tenter de trouver un espace humain pour le respect d'une personne, cela amène inévitablement à conclure que je peux trahir cette promesse quand bon me semble. Soit nous servons l'inconditionnel, soit nous servons un monstre hitlérien qui fournit une convention permettant de faire le mal. Mais il y a aujourd'hui une dizaine de monstres similaires, même si vous ne le croyez pas. Vous verrez ce qui va arriver très bientôt. Même pour un Auden, le célèbre poète élevé dans l'Église, le christianisme venait tout simplement, malheureusement, de Nazareth. Et il s'en était éloigné comme d'un élément obsolète et absolument inutile. Cependant, voyez-vous, la montée du nazisme lui a permis de faire un constat. Il croyait aux droits de l'homme et à la liberté, mais pourquoi ? Oui, pourquoi ? Voyez-vous, dans la nature, le fort mange le faible. S'il est naturel pour le fort de manger le faible, et si nous n'existons que par suite d'un processus naturel d'évolution non guidée, pourquoi changeons-nous soudainement de position quand des pays forts commencent à manger des pays faibles et disons-nous que c'est mal? Sur quoi nous fondons-nous pour affirmer tout cela? Sur quoi nous fondons-nous pour déclarer que le génocide perpétré au Soudan et ailleurs, où le groupe ethnique fort mange le faible, que c'est une mauvaise chose? S'il n'y a pas de Dieu, eh bien ma conception de la justice n'est que ma propre opinion. Comment alors dénoncer les nazis? Et Oden, le célèbre poète, s'est rendu compte qu'un génocide était effectivement un mal. Alors, il a conclu qu'il devait tout de même y avoir un Dieu. Et à l'instar de Nathanaël, l'étudiant sceptique, le célèbre Auden, se laissait troubler par le fait que les gens bien de son temps se moquaient de la foi chrétienne. Mais ces questions intellectuelles restaient sans réponse sur le fondement des valeurs morales, notamment lui ont donné l'envie de poser un regard neuf sur Jésus. Et il a fait la même expérience que Nathanaël lorsqu'il s'est ouvert enfin à l'homme de Nazareth. Et là, il a commencé à croire. Comment peut-on parler, par exemple, d'une bonne montre ou d'une mauvaise montre? Il faut savoir pour cela à quoi elle doit servir. Voyez-vous, si j'essaye d'enfoncer un clou avec ma montre et que celle-ci se brise, pourrais-je me plaindre qu'il s'agit d'une mauvaise montre? Bien sûr que non. Elle n'a pas été conçue pour enfoncer des clous. Ce n'est pas à cela qu'elle sert. Elle sert à nous donner l'heure en un coup d'œil. Et le même principe devrait s'appliquer à l'humanité. Comment peut-on dire d'une personne qu'elle est bonne ou mauvaise, à moins de savoir pourquoi elle a été conçue et à quoi elle sert? Ah oui, mais attendez. Quand on affirme « je ne sais pas s'il y a ou non un Dieu » et « je ne pense pas que les êtres humains aient été conçus pour quoi que ce soit », voyez-vous un peu le dilemme? Si vous croyez vraiment cela, vous ne devez plus jamais dire d'une personne qu'elle est bonne ou mauvaise. Si vous croyez que nous n'avons pas été conçus conformément à une intention précise, que nous ne servons à aucun but particulier, et que vous continuez de dire à certaines personnes « tu ne vis pas de la bonne façon, ce que tu fais est mal », eh bien vous faites preuve d'incohérence. et d'un certain manque de sincérité, il faut bien le dire. Je ne peux pas prouver que le christianisme est la vérité. Néanmoins, je peux vous montrer qu'il y a d'excellentes raisons, oh oui, de croire en Jésus. Si comme Nathanaël, vous êtes prêt à admettre la profondeur de votre besoin de trouver pour les grandes questions de meilleures réponses que celles qu'on vous a fournies jusqu'ici, et si vous êtes prêt à cesser de lever les yeux au ciel quand on mentionne la foi chrétienne, alors je vous invite à vous tourner vers l'homme venu de Nazareth. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire. Si l'on considère les idées venues de là-bas qui ont bouleversé carrément le monde. Et le troisième aspect de l'histoire de Nathanaël à examiner, c'est la proposition que Jésus lui a faite pour combler son besoin. Rappelez-vous, il lui a dit deux choses lorsqu'il l'a rencontré. Tout d'abord, il l'a décrit comme étant un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Le présenter comme une personne franche et directe avec tout, on peut dire, cela avait tout de l'euphémisme. Et certains n'auraient pas hésité, pas du tout, à qualifier cela de caustique. Et il est probable que beaucoup ne l'aimaient pas. Pourquoi ? Ne l'aimaient pas en raison de son franc parler et de sa faculté à froisser les susceptibilités. Voyez-vous, Jésus nous révèle quelque chose à propos de lui-même ici. Il a beau avoir la capacité de distinguer les plus profonds recoins de notre être, il fait preuve, tout de même, reconnaissons-le, de beaucoup de douceur envers nous. Nathanaël est du reste surpris de sa perspicacité et peut-être de sa générosité d'esprit. Et il demande « Comment me connais-tu si bien ?» Et Jésus de glisser tout simplement « Je t'ai vu sous le figuier. » Soit dit en passant, une des raisons de croire qu'il s'agit du compte rendu d'un témoin oculaire, c'est que le texte ne précise nulle part ce qui s'est passé sous le figuier, ni en quoi c'était significatif. Quand on invente de toute pièce une histoire, eh bien on évite d'introduire des éléments qui ne font pas progresser la narration et qui constituent seulement un motif de distraction pour le lecteur. Que faisait donc Nathanaël sous le figuier? Eh bien, personne ne le sait exactement. Tout ce qui compte, c'est qu'il a du mal à croire que Jésus le sache d'une façon précise. Et c'était tout de même si intime, on peut dire si important et si incroyable pour lui, que Jésus sache tout cela, et il s'adresse quand même à lui, qu'il s'exclame, en effet, il a dit, Nathanaël à Jésus, en effet, je crois maintenant, j'en suis certain, que tu es le roi d'Israël, tu es le Messie. Et Jésus le rabroue très gentiment. Au début, tu étais trop sceptique, et maintenant tu es prêt à m'adopter. Mais je ne me suis même pas encore présenté vraiment, car hier, tu levais les yeux au ciel, et aujourd'hui, tu as ressenti une émotion. Tu as trouvé un homme qui a une connaissance surnaturelle de toi. Mais ne va pas si vite. Ne te laisse pas trop impressionner par les apparences. Tu ne comprends toujours pas vraiment qui je suis. Et après la résurrection, rappelez-vous Thomas, un disciple de Jésus. Il déclare aux autres, voyez-vous, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, eh bien, je ne croirai pas. Et quand Jésus lui apparaît ensuite, il ne lui dit pas, voyons, Thomas, comment oses-tu douter de moi, toi, Thomas, un disciple? Mais il dit plutôt, avec beaucoup de compassion, regarde par toi-même, arrête de douter et commence à croire. Saint Jean, chapitre 20, versets 25 et 27. En d'autres termes, Jésus dit, j'apprécie que tu t'attendes à avoir des raisons de croire en moi, et je vais t'en donner des raisons, parce que tu les cherches en toute bonne foi. Jésus n'est pas contre, pas du tout contre, le fait que les gens réfléchissent. Ne me faites pas dire que ce que j'ai pas dit. Il est d'accord qu'on réfléchisse, qu'on analyse. De fait, il insiste pour que Nathanaël le fasse un peu plus même. Donc, par conséquent, si vous êtes sceptique à propos du christianisme, eh bien j'aimerais vous amener à prendre conscience de l'équilibre nécessaire d'un côté, de rester sceptique à jamais, cela serait contre-productif du point de vue intellectuel et moral. Sauter sur la première idée qui vous paraît susceptible de répondre à vos besoins affectifs profonds, cela ne vous aidera pas à répondre à quelque question que ce soit. Il ne suffit donc pas de se tourner vers le christianisme pour qu'il réponde à des besoins ressentis. Ce n'est pas un bien de consommation. Vous devriez y adhérer uniquement s'il correspond à la vérité. Avez-vous remarqué la dernière chose que Jésus dit à Nathanaël? Il lui dit, c'est pour cela que tu crois. Vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quand on s'approche de Jésus pour la première fois, on pense, je ne vais probablement pas obtenir de réponse aux grandes questions, mais peut-être qu'il m'aidera, va savoir, à devenir une meilleure personne. C'est déjà pas mal. Peut-être qu'il va s'occuper de ma solitude ou de certains autres problèmes que j'ai. Tout le monde vient à Jésus en se protégeant autant que possible, en restant surtout sur ses gardes, car personne ne sait si ses besoins seront comblés. Cependant, quand on le trouve effectivement, il est toujours mieux qu'on ne l'a imaginé. Son affirmation à Nathanaël renvoie à un récit de l'Ancien Testament où Jacob, rappelez-vous, s'endort et là, il voit une échelle qui est posée entre la terre et le ciel. Et il y a des anges qui montent et descendent. Les anges sont donc un signe de la présence royale de Dieu. Puisque les hommes se sont détournés de lui et se sont détruits mutuellement, eh bien le ciel et la terre ont été séparés. Oui, il y a un mur qui s'est élevé entre l'idéal et le réel. Mais Jacob a eu cette vision. Ce rêve signifiait qu'un jour, il y aurait un lien entre le ciel et la terre, il y aurait un moyen d'accéder à la présence même de Dieu. Ici, Jésus affirme, il affirme une chose incroyable, que c'est lui ce moyen-là. Il est le logos de l'univers. Il est le pont entre le ciel et la terre. Avant que j'oublie, je voudrais, pour ceux qui possèdent Internet, moi je ne le possède pas, que vous cherchez sur www.bibleexplique.ch et que vous cherchez pour trouver le témoignage incroyable de Marietta, ainsi que tout ce qui concerne le ciel et l'enfer, et des centaines d'autres sujets qui vont vous aider à mieux comprendre la sainte parole de Dieu. Donc, on peut presque entendre que Jésus, il rit un moment, il rit lorsque il répond en substance à notre ami Nathanaël et lui dit « Tu penses maintenant que je suis le Messie, tu penses probablement que je vais monter sur un cheval et que je vais renverser les oppresseurs romains. Mais je vais te montrer des choses bien plus grandes que cela, car en agissant comme toi tu le penses, je ne pourrai pas transformer la condition humaine, le cœur humain, son âme et son esprit. Je ne pourrai pas remporter la victoire sur le mal et la mort et former un monde nouveau. Mais je te le dis, je suis l'Axis Mundi. J'ai fait un trou dans le mur de séparation entre le ciel et la terre, et par mon incarnation et par ma mort sur la croix, dont tu n'as même pas encore été témoin, je peux t'amener, toi, directement dans la présence de Dieu. Même si la plupart des personnes en recherche spirituelle commencent leur quête avec la peur d'être déçues, ce que je comprends, Jésus affirme qu'il sera toujours infiniment mieux que ce qu'elle recherche ailleurs. Il dépassera toujours nos attentes il sera plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Pour terminer cette étude, j'aimerais encore vous dire, débarrassez-vous donc simplement de tous vos préjugés et joignez-vous à Nathanaël. Venez un peu voir, venez voir et parler de Jésus avec vos amis, pourquoi pas. Venez et soyez prêts à ce que vos priorités et certaines de vos conceptions changent. Quelles que soient vos attentes, quels que soient vos espoirs, quels que soient vos rêves, eh bien vous découvrirez quelque chose de bien plus extraordinaire à Nazareth. Vous pouvez le croire par la suite de cette série. Que Dieu voulant, je vous donnerai demain matin. Je vous demanderai à vous, simplement, si vous en avez l'occasion, de réécouter certains aspects de cette étude. Simplement, essayez et de noter une ou deux choses qui vous intéressent vraiment, qui vous ont frappé. Et puis, vous faites une toute petite prière vous-même. Essayez. Tout simplement, souvenez-vous que de s'humilier, c'est le contraire de l'orgueil. Et c'est quelque chose qui est difficile pour certains d'entre nous. Mais essayez. Et souvenez-vous que Dieu vous aime tendrement. Et je vous aime tous ceux qui ont écouté maintenant. Je vous dis, je vous aime dans le Seigneur, vraiment. Je vous embrasse fraternellement et que Dieu vous bénisse richement. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Au revoir.